programme Élise portant sur l'adolescence à l'ère du numérique. Je suis Agathe Donner, agente de développement à Boscoville, et je reçois Emmanuelle Parent, docteur en communication et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, Ciel. Merci Emmanuelle d'avoir accepté notre invitation.
Ben merci à vous de l'invitation.
Ta formation et ton expérience à la Fondation Ciel va certainement nous apporter un éclairage intéressant sur l'usage du numérique chez les jeunes. Alors pour débuter, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la fondation que tu as cofondée et les raisons de sa création?
Les raisons de la création du Ciel sont multiples, mais principalement, c'est l'union de différents jeunes chercheurs en communication, psychologie, psychiatrie, intervention sociale, éducation, droit et une personnalité publique qui s'appelle Alexandre Champagne, qui, chacun de notre côté, avons remarqué des soucis associés au numérique. Donc, moi, j'avais des amis qui publiaient, disons, que des photos le soir à 21h parce qu'ils savaient de leur expérience en marketing que c'était là le meilleur moment. Puis en psychiatrie, ils commençaient à avoir des jeunes en cyberdépendance. Puis dans les écoles, ils voyaient des cas de cyberintimidation. Donc, de toutes ces problématiques-là, on a décidé de s'unir pour faire quelque chose pour les jeunes. Puis à partir du moment où on veut aider les jeunes avec le numérique, on remarque qu'on leur dit beaucoup quoi faire, mais qu'on les écoute moins. Mm-hmm. Puis c'est important de pas juste parler aux jeunes, mais avec eux. Donc, on s'est dit, parfait, on crée un centre où les jeunes vont avoir une place, puis on va pouvoir les aider dans leur relation numérique.
Ah, oh, wow! Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus concrètement les activités que vous réalisez à la Fondation?
Oui, bien, pour remplir cette mission-là, on le fait principalement avec un programme de prévention qui est notamment appuyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui se déroule dans toutes les écoles du Québec. Donc, on a des ateliers aux primaires dans les 4e, 5e et 6e années. On va jaser avec les jeunes de saines habitudes de vie. Et puis, on a aussi un format au secondaire, principalement les secondaires 3, 4, 5, où là, on va plus travailler un esprit critique sur notre utilisation des réseaux sociaux, jeux vidéo, téléphone et plus. Puis, quand on va dans les écoles, on essaie aussi de jumeler ces ateliers-là aux jeunes avec des formations à l'équipe école et avec des présentations pour les parents parce que finalement, ça touche tout le monde, cette problématique-là. Ensuite, après le programme de prévention avec les jeunes, on fait aussi de l'éducation auprès de la population générale avec la vulgarisation sur les réseaux sociaux et un balado qui s'appelle « La connexion ». Finalement, on fait aussi du service conseil où on collabore avec d'autres organismes, comme vous d'ailleurs, pour parler du numérique.
C'est interpellant comme nom le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. C'est pas si fréquent d'entendre parler d'intelligence émotionnelle en ligne lorsqu'on parle des technologies et du numérique. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie plus exactement?
Oui, tout à fait. L'intelligence émotionnelle, déjà, on l'entend un peu parler. C'est cette capacité à reconnaître les émotions chez soi, chez les autres, puis à s'adapter, adapter nos comportements là-dessus. Mm-hmm. Dans le cadre du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, bien, on s'appuie plus sur trois principes. Donc, le premier, c'est la connaissance de soi. Donc, être capable de reconnaître nos signaux, disons, quand on est sur un téléphone ou on joue à un jeu vidéo. Par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une école puis un jeune qui dit « Ben moi, quand je commence à trop être sur mon téléphone, TikTok, YouTube, il dit « Je commence à avoir chaud à la face, j'ai les oreilles, il me semble qu'ils sont comme en chou-fleur, j'ai mal aux yeux, donc j'arrête. » Ça, c'est une belle représentation de reconnaître les signaux de son corps puis d'agir là-dessus. Deuxième principe, c'est ben, la connaissance sociale, donc l'empathie chez les autres. Donc, quel genre de commentaire est-ce que je peux faire sous la photo de quelqu'un? Ça, c'est un principe qui est plus évident. On fait attention de respecter les autres en ligne. Aussi, qu'est-ce que je publie, comment ça peut affecter le collectif. Le troisième principe, c'est plus au niveau des consciences du fonctionnement des plateformes. On les utilise, les téléphones, les réseaux sociaux, parfois sans même vraiment comprendre pourquoi est-ce que c'est gratuit, c'est quoi leur modèle d'affaires, comment est-ce que leur fonctionnement a un impact sur mon bien-être. Donc là, on va vraiment aller avec les jeunes, expliquer comment ça fonctionne puis comment ça peut nous affecter.
OK. Fait qu'on amène les jeunes vers une utilisation qui est plus consciente, de ce que je comprends, la manière dont ils sentent quand ils utilisent les technologies, mais aussi la manière dont ils les utilisent de manière plus concrète.
C'est super bien dit. Utilisation réfléchie, qui est moins automatique, qu'on prend le temps de réfléchir avant d'être sur le téléphone, parce qu'une des raisons numéro un pour laquelle les jeunes vont nous dire qu'ils ont un téléphone, c'est parce que tout le monde en a un, ou ils ont téléchargé TikTok parce que toutes les personnes dans leur classe l'avaient. Donc, c'est fort quand même de vouloir connecter avec nos pairs, mais ça fait malheureusement que des fois, on omet de se poser certaines questions qui seraient pourtant fondamentales.
Mmh. Comme parents, on sait que le numérique fait partie intégrante de la vie de nos jeunes. Comme tu le dis, beaucoup d'entre eux ont des cellulaires, beaucoup utilisent des applications, vont sur les réseaux sociaux. Il y a même des tablettes à l'école aussi, parfois, dans certains établissements. Et parallèlement, on entend que les technologies et les écrans, ça peut être néfaste pour nos jeunes. On est confronté à des messages qui peuvent être contradictoires, puis ça peut être difficile comme parents de s'y retrouver dans tout ça.
Vraiment, c'est une nouvelle composante de l'éducation des enfants aujourd'hui, de comment est-ce qu'on les accompagne dans leur autonomie puis leur utilisation des technologies. Puis ce qu'on peut remarquer des fois dans les médias, c'est qu'ils vont commenter « Ah, une nouvelle étude est sortie qui lie l'utilisation des réseaux sociaux avec des symptômes d'anxiété. » Ah, on voit une autre étude ici qu'on lie l'utilisation des jeux vidéo à la solitude. Ça devient difficile après, dans le concret, dans la vie de tous les jours, de savoir comment est-ce qu'on régule tout ça avec l'enfant. Mais vraiment, les impacts négatifs, un défi qu'il y a scientifiquement, c'est qu'il varie extrêmement d'un jeune à l'autre. Donc, selon les vulnérabilités d'un jeune, les impacts de l'utilisation vont être différents. Donc, un jeune qui suit un influenceur va peut-être s'en inspirer, en parler avec ses amis de qu'est-ce qui se passe dans sa vie, alors qu'un autre jeune va avoir tendance à se comparer puis à trouver que sa vie est pas excitante. Mais les deux ont la même utilisation, objectivement, du numérique. C'est juste que comment ça les affecte, ça va être différent. Si on revient ensuite aux généralisations, aux constats de la science, ben là, on va remarquer des effets sur du contenu inapproprié. Qu'est-ce que ça peut faire aux enfants? Il va avoir une corrélation entre une grosse utilisation, une utilisation excessive des symptômes d'anxiété, symptômes dépressifs, aussi des problèmes des fois pour l'image corporelle. Ça, c'est des récurrences dans les problèmes qu'on va voir souvent. Donc, nous, on va de l'avant puis on les adresse en atelier.
Mais on peut pas dire pour autant que le numérique contrevient systématiquement au bien-être.
Absolument pas. Puis c'est pour ça que c'est pas la même chose faire de la prévention aux méfaits du numérique que de faire de la prévention aux drogues, par exemple, ou à des substances psychoactives où là, on sait que le risque est tellement grand. T'auras pas une bonne utilisation de la cigarette qui fera aucun dommage à tes poumons. Tandis qu'avec les écrans, waouh, il y a tellement de bénéfices pour des jeunes. C'est là qu'ils vont avoir des premières réponses sur leur question d'identité. Est-ce que c'est normal que j'aime des personnes du même genre que moi? Qu'est-ce que ça veut dire être en amour? Tu sais, des questions comme ça que t'es gêné de parler avec tes parents, tes amis, mais sur un forum de tel jeune, par exemple, ou d'autres ressources, tu vas aller chercher du réconfort puis de l'appui. Puis ça, parmi les bénéfices associés aux écrans, le soutien émotionnel, c'est parmi les plus hauts. Parce que ça nous permet de connecter avec notre entourage.
Ah, wow. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis important aussi à garder en tête qu'il peut y avoir des dérives, mais il n'y a pas juste ça. Le numérique, ça peut aussi avoir son lot de possibles. Ça peut permettre plusieurs choses, puis ça peut être un outil intéressant pour les jeunes aussi à l'heure actuelle. À ce stade-ci, je trouverais ça intéressant de prendre le temps de définir un petit peu plus clairement ce qu'on entend par le bien-être numérique, si tu peux nous le préciser, s'il te plaît.
Bien, ça, c'est une bonne question. Puis on le définit avec les jeunes en début d'atelier. Le bien-être, en fait, c'est se sentir bien dans sa tête, dans son corps et aussi socialement. Pour y arriver, bien, avec la place des écrans dans nos vies, il faut reconnaître que, comme on a commencé à en parler, il y a des bienfaits. Puis, il y a des méfaits. Parce que si on arrive avec les jeunes juste en leur tapant sur les doigts, il y a comme un bris de confiance un peu parce qu'ils voient aussi, eux, c'est quoi les aspects positifs. Donc, on commence à nommer les aspects positifs. Ensuite, on nomme les aspects négatifs puis on dit, bien, on veut profiter le plus possible des bénéfices et réduire les méfaits. En réduction de méfaits, ceux qui travaillent avec la santé publique savent que c'est une approche importante. Ensuite, c'est de nommer que les plateformes numériques, quand on se penche sur leur modèle d'affaires, on remarque que le bien-être, c'est pas nécessairement ça qu'ils ont à cœur, peu importe ce qu'ils disent. Même que le PDG de Netflix a dit que leur compétiteur numéro un, c'était pas Crave, ni Disney+, ni la télé traditionnelle, mais que leur premier compétiteur, c'est le sommeil. Parce que qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher souvent? On écoute une émission sur Netflix. Puis la plateforme, son but, comme c'est de garder notre attention, de connaître nos habitudes d'écoute, elle va nous mettre un petit décompte, 10, 9, 8, 7, 6, qui fait qu'on se dit « OK, juste un épisode avant d'aller se coucher ». Donc, ça montre bien que c'est pas qu'ils sont méchants et mal intentionnés, les plateformes, mais que leur priorité, c'est les profits et que nous, notre priorité en tant qu'utilisatrices, utilisateurs, ça devrait être notre bien-être. Parce que, comme on l'a nommé, les plateformes, leur but, c'est de garder notre attention. Ils le font avec plein de mécanismes sur l'interface de leur plateforme, donc les notifications, les vidéos qui jouent toutes seules, le fil d'actualité infini. Donc, tous ces mécanismes-là, c'est important de les reconnaître parce que ça, c'est ça aussi des fois qui va nous permettre de mettre notre téléphone sur pause pour aller faire des choses qu'on sait vont nous combler davantage.
C'est intéressant ce que tu dis. Ça rappelle aussi l'importance du sommeil chez nos adolescents.
Oui, puis chez les adolescents et chez les enfants aussi. Puis quand on parle des jeunes, on leur dit, ben quand t'es enfant, c'est bon de dormir 10 heures par nuit. Ils vont rire un peu, puis il y en a qui vont dire, ah ouais, des fois je trouve ça difficile, je me dis juste un dernier round sur Fortnite, puis après c'est 20 minutes de plus, puis ils le savent, ça. Ça, c'est un bel exemple de comment, en tant que parent, on peut aider l'enfant à... Ben, encadrer un peu l'utilisation des écrans, de dire, bon, cet enfant veut être en forme, il veut dormir, je vais mettre peut-être une limite sur la PlayStation, une limite sur la console, peut-être que je vais couper le Wi-Fi après une certaine heure en l'expliquant. Évidemment, on veut pas juste punir l'enfant en disant, passer 8 heures, t'as plus le droit aux écrans, mais de y expliquer que le sommeil, c'est important pour se sentir bien, puis à cause que les plateformes sont tellement bonnes à garder notre attention, ben, je vais être un allié. Puis je vais te l'indiquer quand il te reste juste 15 minutes, il te reste juste 5 minutes. OK, maintenant, on éteint la plateforme. Puis évidemment, en vieillissant, ben le jeune va faire sa propre autonomie, puis rendu à 16 ans, ça se peut qu'il le fasse par lui-même, là.
Et sachant cela, selon toi, est-ce que les jeunes sont prêts à avoir une conversation sur leur utilisation des écrans et leur usage numérique?
Dans nos ateliers avec les ados, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont prêts à 100 % de parler du numérique. Cependant, c'est pas nécessairement des conversations qu'ils ont avec leurs amis parce que le numérique est tellement présent depuis toujours dans leur vie que c'est comme nous, à notre époque, on n'allait pas dire « Que penses-tu de la place de la télévision dans ton bien-être? » Alors que si je voulais les cheveux absolument plats plutôt que frisés, c'était probablement parce que j'adorais Britney Spears puis qu'elle-même avait les cheveux plats, mais j'allais pas accuser la télévision. Okay. Donc, d'imposer ces discussions-là, c'est nécessaire parce qu'elles seraient pas là autrement, mais quand on l'amène, le sujet, sont là. Puis de 14 à 17 ans, c'est comme s'ils avaient vécu une vie avec le numérique. Donc, ils vont nous parler qu'ils publient plus comme quand ils étaient plus jeunes, qu'ils consomment plus le même contenu depuis qu'ils ont changé de gang d'amis. Puis, ils partagent ces stratégies-là. Pour les parents, je dirais que est-ce que les jeunes sont prêts à écouter des choses qu'on leur dit, peut-être déjà qu'ils connaissent un peu, ils se font souvent dire « passe moins de temps sur ton téléphone » ou « les jeunes sont tout le temps sur leur téléphone ». Fait qu'être prêt à entendre des reproches, pas tout le temps, mais vraiment être prêt à en parler. Donc, de prêter oreille puis de s'intéresser à ce qu'ils font sur le numérique, ça peut vraiment être payant en atteignant le même objectif finalement qui est un bien-être numérique.
Donc, si je comprends bien, les jeunes sont plutôt prêts à avoir une conversation sur leur consommation du numérique, mais ça va dépendre aussi de la manière dont on va amener la conversation puis dont on va adresser la question.
Oui, puis même qu'est-ce que je recommanderais, c'est de, quand on veut amorcer la conversation, puis tu sais, là, on saute sur des portes ouvertes. Des portes ouvertes, c'est, il y a une nouvelle à l'actualité ou il y a un certain événement qui s'est passé à l'école ou nous-mêmes, on voit quelque chose sur les réseaux sociaux qui nous choque ou on sait pas, on en parle avec l'enfant. Puis on commence en parlant de nous, parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est « Ouais, faudrait que je passe moins de temps sur mon cell, mais mes parents sont tout le temps sur leur téléphone. » Les enfants plus petits vont nous dire « Ce que je souhaiterais, ça serait que mes parents soient moins sur leur cell puis qu'ils viennent jouer avec moi. Oh, » Puis les ados, ils disent « Ouais, ben mes parents me disent de pas gamer, mais mon père, il va gamer, lui, toute la soirée. » Des fois, de parler des difficultés qu'on vit, nous, en tant que parents, parce que nous aussi, là, on est touchés par le modèle d'affaires, puis Netflix qui veut pas qu'on dorme. Donc, de partir de soi, puis d'être à l'écoute après de l'autre, sans jugement, sans stéréotype, sans vouloir faire la morale. T'sais, vraiment, juste une position d'écoute active où on cherche à comprendre la perspective du jeune.
OK. Puis de faire preuve de cohérence aussi, de ce que je comprends, de se questionner sur notre propre usage puis les enjeux auxquels on fait face nous-mêmes, en fait, en tant que parents puis en tant qu'adultes.
Vraiment. Puis même qu'on a fait des groupes de discussion avec des jeunes, des ados un peu plus jeunes, donc mettons 14 ans, 15 ans, puis on leur disait comment est-ce que ça se passe à la maison. Puis c'est quelque chose qui nous rappelait souvent. De dire, ben ce qui est bon pour l'un devrait être bon pour l'autre. Donc, si j'ai pas le droit à mon téléphone à table, l'autre aussi devrait pas avoir son téléphone à table, ou sinon, le contextualiser que c'est pour le travail ou que c'est urgent, par exemple. Il disait pas qu'il était contre les règles, mais plutôt qu'il voulait être consulté dans l'établissement de ces dernières.
C'est intéressant ce que tu dis. Puis avec ces éléments en tête, comment on pourrait résumer la posture à adopter en tant que parent avec son jeune pour l'accompagner adéquatement face aux éléments du numérique?
Ouais, je vais dire trois choses. La première, c'est l'écoute et l'empathie. Oui. On vient d'en parler un peu. Le deuxième, ça serait plutôt d'être un allié, de faire équipe avec le jeune. Fait que c'est pas moi, parent, gardien de prison, contre toi, que je surveille contre ton téléphone. D'essayer d'être moins en opposition, d'être plutôt en équipe, nous deux, pour le bien-être numérique. Mm-hmm. C'est quoi tes valeurs? Tu veux, OK, passer tes maths, tu veux passer beaucoup de temps avec tes amis, puis tu veux avoir un meilleur score dans tes parties de basket ou de soccer. Je sais pas trop, bon, ben, je vais être un allié, puis je te le répétais des fois, de comme, tu sais, t'avais dit que tu voulais être meilleur, peut-être aller pratiquer dehors, après ta game ou avant souper, etc. Donc, travail d'équipe. Puis le troisième, ça serait l'esprit critique. On parle que c'est un objectif chez les jeunes, mais chez les parents aussi, c'est important de réfléchir au-delà, par exemple, du fait de voir un jeune devant son cell, au-delà du temps d'écran. On entend ça, des fois, les recommandations de la santé publique vont dire, ben 2 heures. Avant, on disait 2 heures de temps d'écran chez les jeunes. Aujourd'hui, on s'est un peu ravisé, puis on dit, ben ça dépend du contenu de l'écran. Qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce que c'est éducatif? Est-ce que ça nous fait sentir bien? Est-ce que c'est une belle série qu'on va parler le lendemain au souper? 2, le contexte. Est-ce qu'on écoute un écran seul, isolé, dans la chambre? C'est quelque chose qu'on va moins recommander parce que justement, on n'est pas en contact avec les autres. Ou est-ce que c'est avec d'autres personnes? Donc, le fait de jouer en ligne avec ses amis, ça peut être bien pour les relations sociales, se faire un marathon d'Harry Potter, toute la famille ensemble. OK, on a passé 8 heures devant l'écran, mais on a passé un moment intense ensemble qui était peut-être super, avec beaucoup de popcorn. En tout cas, bref, vous comprenez. Un troisième, ça serait aussi... Ben, les vulnérabilités de l'enfant, on en a parlé aussi. Oui. Les impacts dépendent d'un jeune à l'autre. Donc, de dépasser un peu la durée pour garder toutes ces composantes-là puis se faire confiance aussi parce que le rôle de parent, peu importe celui qu'on se donne selon nos valeurs, qui est peut-être d'encadrer, qui est celui d'être flexible, d'accompagner, ben c'est la même chose avec le numérique. C'est pas parce que tout d'un coup, c'est des outils qu'on comprend moins bien qu'on devient dépourvu, tu sais, même si... Les outils sont nouveaux, les enjeux qui touchent les jeunes restent les mêmes. Tel jeune le dit que dans leurs dizaines de milliers d'interventions avec les jeunes, de quoi ils parlent? Ils parlent pas d'un cellulaire, là. Ils parlent de santé psychologique, je suis stressée, des examens, je me sens triste, je sais pas. Tu sais, c'est la première fois que t'es ado, c'est la première fois que tu te sens triste autant, c'est la première fois que tu te sens seule. C'est beaucoup là, à adapter. Ou les relations amoureuses. Est-ce que je t'en amour, etc. Donc, c'est les mêmes thématiques que quand nous, on était ados. Okay. Donc, on est moins loin qu'on pense.
Fait que les outils ont changé, mais les préoccupations demeurent les mêmes. Par ailleurs, ça m'amène à me demander, est-ce que les parents ne gagneraient pas à s'éduquer aussi un petit peu sur le numérique pour pouvoir accompagner leurs jeunes adéquatement?
Oui. Puis là, ça, c'est un défi des fois, parce que là, on voit, disons, le téléphone d'un enfant, puis là, il joue à un jeu, puis là, ça flash, puis oh my God, ça nous intéresse tellement pas, mais de juste le télécharger, mm-hmm. de jouer, de s'intéresser, puis de le comprendre un peu, même si on l'utilise pas, de télécharger Snapchat, de voir c'est quoi l'interface, de télécharger TikTok, de s'intéresser à ça, puis d'apprendre à le connaître, ça va nous donner des outils après pour être capable de discuter. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais ça permet quand même de mieux comprendre le problème, puis j'en profite pour glisser un petit peu de l'information sur, disons, les jeux gratuits. Mm-hmm. Des fois, on va être méfiant des consoles parce qu'on associe ça à une grosse utilisation des jeux vidéo, mais les petits jeux gratuits sur les téléphones, il faut aussi s'en méfier parce qu'eux, ils vont avoir plein de microtransactions. Puis ça peut arriver aux parents d'ados, des fois, d'avoir une surprise, de voir qu'il y a des centaines de dollars de la carte de crédit qui ont été dépensées on n'a pas vérifié, disons, les jeux auxquels jouait notre enfant. Puis lui, c'était une monnaie du jeu. Il ne savait pas nécessairement que ça allait dépenser dans la carte de crédit de ses parents. Donc, c'est juste un exemple qui dit que si tu t'intéresses à ce qu'il fait, tu le télécharges, tu le testes, ben ça va peut-être prévenir des situations comme ça. Puis ça ne prend pas excessivement de temps non plus.
Tu peux éviter certaines dérives. On a abordé plusieurs points super pertinents jusqu'à présent. Avant de conclure, quels sont les messages essentiels que tu voudrais que les parents retiennent?
Pour renommer des choses qu'on a... expliquer, je dirais, l'écoute, le fait d'être un modèle, si on peut, de savoir qu'on est tous là-dedans. Puis une dernière truc qu'on n'a peut-être pas dit, c'est de rester vraiment curieux à l'utilisation du numérique chez les jeunes, chez nos enfants, parce que ça peut être une belle opportunité pour nous aussi d'en apprendre sur qu'est-ce qui les intéresse. Donc, quel YouTuber est-ce que tu écoutes? C'est quoi le contenu? Allez écouter qu'est-ce qu'ils écoutent. C'est quoi le genre de sujet qui les passionne? Qu'est-ce que tu utilises sur TikTok, là? Ton fil d'actualité ressemble à quoi? Si le parent aussi utilise TikTok, on va se rendre compte que les algorithmes nous ont menés à un contenu vraiment différent. Donc, de voir, ah ouais, tu t'intéresses vraiment beaucoup au dessin, je savais pas. Ah, t'écoutes beaucoup de manga, je savais pas. Donc, des fois, les parents en apprennent sur leurs jeunes à travers l'outil numérique, à travers ce contenu-là. Donc, les jeunes aussi le disent parfois de TikTok le savait avant moi. T'sais, parce qu'il leur a proposé du contenu qui plaît à des jeunes qui ont les mêmes intérêts. Donc, d'être très, très curieux sur qu'est-ce qui se passe dans l'écran des jeunes, puis d'en profiter pour faire des activités, des fois, justement, hors ligne, à l'extérieur de l'écran. Donc, Ah, t'adores la YouTubeuse Marianne Plaisance qui refait des décors? T'en dirais quoi qu'on essaie de faire un projet dans ta chambre comme ça? Mm-hmm. Donc, c'est le genre de truc qui peut être réinvesti dans le vrai monde, en guillemets.
Merci, Emmanuel. Ça a été un réel plaisir de te recevoir et de t'entendre parler de l'adolescence à l'ère du numérique.
Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis, pour des personnes qui auraient des questions sur les ateliers qui voudraient nous recevoir dans leur établissement scolaire, vous pouvez visiter notre site internet, leciel.ca. Ou pour toute information, s'éduquer sur le sujet, ben on est présent sur Instagram, TikTok, évidemment, quand on est capable de faire pause, à fondation.le.ciel. Ou sinon, beaucoup d'informations avec notre podcast La Connexion, qui est sur toutes les plateformes d'écoute en continu.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'adolescence et ses enjeux, consultez les différentes thématiques et modalités du programme ELIS. Merci d'avoir été avec nous.
Ce balado a été créé dans le cadre du programme ELIS, destiné à soutenir les parents d'adolescentes et d'adolescents âgés de 12 à 17 ans. Ce programme a été développé par Boscoville, en partenariat avec la Direction de la santé publique de Montréal, le réseau Réussite Montréal et la chercheure associée Marie-Ève Clément de l'Université du Québec en Outaouais.
Le fin son de l'histoire.